Rouletabille chez les Bohémiens, chapitre 8e. La pieuvre. 1. Le signe de la couronne. Le tumulte fut tout de suite immense. L'assemblée cria à l'anathème, et les gardiens se seraient précipités sur Rouletabille si un geste auguste du patriarche ne l'eût préservé. Andrea, Calista, Zina et toute la troupe de Sombalo, tout ce monde parlait à la fois, ou plutôt vociférait, en montrant le poing à Rouletabille. Odette, sortant enfin du rêve dont elle paraissait accablée, se soulevait, les bras tendus vers cet espoir de salut. Rouletabille. Mais elle retomba presque aussitôt, comme si elle eût douté encore une fois de la réalité, comme si cette image, jaillie du fond de ses cauchemars, n'était, elle aussi, qu'une fumée. Le grand Cuerce, avec sa figure des plus mauvais jours, était venu se placer à côté de ce jeune audacieux qui avait osé violer l'enceinte sacrée. Enfin, quand tout ce désordre se fut un peu apaisé, on parvint à s'entendre, mais non à se comprendre. Rouletabille parlait la langue des gâchis, villes étrangères, que le plus grand nombre ignorait. Le patriarche fit appel aux lumières d'un docte vieillard à lunettes qui avait passé sa vie dans les bibliothèques et qui était à peu près polyglotte. Par ce truchement officiel, le peuple tout entier put saisir le sens des propos échangés. Rouletabille, tel Cassandre qui avait le mauvais œil, au moins autant que Zina, prédisait au peuple siguin les pires calamités si le patriarche et le conseil des vieillards achevaient l'œuvre criminelle que d'autres avaient commencée. Mais il se déclarait hautement persuadé que le dieu des Romanés, qui était aussi celui des Roumis chrétiens, et surtout des Roumis de France, lesquels avaient élevé les premiers un temple à Sainte-Sara, la plus glorieuse servante de ce dieu et la protectrice de la race, avait mis trop de sagesse chez son grand prêtre et trop d'innocence dans le cœur de son conseil pour qu'ils se fissent les complices d'un sortilège. « Ce jeune homme parle comme un diplomate », confia le grand prêtre au conseil des vieillards. « Méfions-nous. » Et tout haut, il lui demanda. « Tu parles d'un sacrilège. Je ne vois encore que celui que tu as commis en pénétrant dans l'enceinte défendue. » « Sainte Sara me le pardonnera, parce qu'elle sait que je ne suis venu ici que pour vous apporter la vérité. »« Tu me parais très bien avec Sainte Sara, » reprit Féodore, caustique, « et tu me sembles un fameux bavard. À Severturn, on aime les paroles courtes. Qui accuses-tu de ce sacrilège ?» Rouletabille se tourna vers Calista, Andrea et Zina, et dit « C'est trois que voilà. » Immédiatement, les trois protestèrent comme des possédés. « Il y a sacrilège, » reprit Rouletabille sans plus s'émouvoir. « Quand une troupe de trois gredins, invoquant un texte sacré, abuse de la crédulité d'un peuple pour lui faire prendre des vessies pour des lanternes. »« Des vessies pour des lanternes? Qu'est-ce là ? » interrogea gravement le patriarche. Le docte vieillard de la bibliothèque dut avouer que sa science ne lui permettait pas de pénétrer parfaitement le sens d'une aussi rare expression. Jamais il ne l'avait lue dans un livre. D'autre part, dans les milieux diplomatiques où il fréquentait, chez le consul de Valachie, il ne l'avait jamais entendu. « Cela veut dire, » finit par leur jeter Rouletabille, qu'ils vous ont fait prendre Mademoiselle de Lavardin pour la Kéra annoncée par les Écritures. Or, Mademoiselle de Lavardin, dans toute cette affaire, est victime de la jalousie de cette Calista, qui aime le fiancé de Mademoiselle de Lavardin. « Mensonge ! Mensonge ! » clama Calista. « Si c'est pour nous raconter de pareilles sobradas, textuellement de pareilles balivernes, commença un noble vieillard. « Que la zarapia t'emporte !» La peste. « Je ne suis pas très savant, » exprima avec amertume et sur un ton de fausse humilité le docteur de la bibliothèque. lequel avait une voix de basse taille qui le faisait entendre jusqu'au fond du temple. « Je ne suis pas très savant. » Il avait encore sur le cœur les vessies et les lanternes. « Mais je crois bien qu'en français, on appelle cela des potins. » « Il faut tout de même bien que vous sachiez pourquoi on vous a trompé, et je ne peux pas vous raconter ça par parabole. » releva Rouletabille, fort irrité et très vexé, au fond, du mépris avec lequel on accueillait ses accusations. « Sans ce potin-là, mademoiselle de Lavardan serait encore en France, sa patrie qui la réclame, et à laquelle vous n'avez pas le droit de l'arracher. » « Mademoiselle de Lavardan est cigaine, d'après la loi cigaine. »« Elle est française, d'après la loi française. »« Sa mère était cigaine, » proclamèrent 50 voix. Des vieillards attestaient. « J'ai connu sa mère. » Un autre, « J'ai tenu sa mère dans mes bras quand elle n'était encore qu'une petite fille. » Mais la plus enragée était certainement Zina, qui montrait d'un geste de folle sa poitrine décharnée qui avait nourri la Kéra. « Et quand Saraya est morte, c'est moi qui ai été Saraya, sa mère. Mais l'étranger nous l'a volée, et moi j'ai suivi l'étranger. »« Tu as suivi l'étranger ?» hurla Rouletabille. « Et pendant tant d'années, tu n'as rien dit ?» Alors que tu savais que les Siguins, tes frères, cherchaient partout leur petite princesse? Si tu avais su que celle-ci était vraiment la Kéra, serais-tu restée muette? » À cet argument foudroyant, un silence prodigieux, seul, répondit. Tous les yeux étaient maintenant tournés vers Zina, qui, haletante, se taisait. Et cependant, elle savait que ce silence la condamnait. Elle cacha son front dans ses mains démentes, et alors un menaçant murmure commença de monter vers elle. « Je commence à avoir le bon bout, » se disait Rouletabille. « Profitons-en. Et, avant le bon bout de la raison, frappons fort. Je vais te dire, moi, » fit-il d'une voix qu'il essayait autant que possible de faire tonitruante. « Pourquoi tu t'es tu pendant tant d'années ? C'est que tu savais bien que cet enfant ne pouvait pas être la princesse attendue, car elle ne portait pas à l'épaule le signe annoncé, le signe promis par les Écritures. Mademoiselle de Lavardan n'avait pas le signe de la couronne. » Une immense plainte monta lugubrement sous les voûtes. Déjà, le peuple désespérait. « Elle n'a pas le signe ! Elle n'a pas le signe ! » se murmurait-on avec douleur. « Elle n'a pas le signe !» s'écria Calista en s'interposant entre Rouletabille et Zina, dont elle redoutait la faiblesse. « Tu as dit qu'elle n'avait pas le signe !» À ce moment, une petite voix douce, une voix d'or, qui semblait sortir d'une bouche d'ivoire, se fit entendre. Encore une fois, l'icône s'animait. Odette se dressait. Elle ne retomba pas. Elle vint vers le vieillard d'un pas de somnambule, et sa petite voix prononça « Un signe ? Mais je n'ai pas de signe !» Alors on vit Calista se précipiter vers cet enfant comme une furie, et arracher d'un geste farouche le léger pan d'étoffe qui flottait sur son épaule. « Voyez ! S'écria-t-elle. « Voyez si elle n'a pas le signe de la couronne !» Le seul qui n'avait pas été trop ému par ce dernier incident était, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, le patriarche lui-même. Car avant de faire asseoir Odette sur la chaise royale, il avait pris la précaution de constater rapidement par lui-même qu'elle avait bien la marque sacrée. Dans sa pensée, il ne devait montrer celle-ci au peuple qu'au moment de la grande solennité du couronnement. Mais les événements le dépassaient. Et maintenant, il voyait bien qu'il fallait le faire, tout de suite. Le peuple juge de l'imposture. « Elle a le signe !» proclama-t-il. « Peuple, réjouis-toi ! Elle a le signe !» Alors on se rua. Cette marque sainte, chacun voulait la voir. Ce sceau de l'alliance avec la divinité, tous voulaient le toucher, et aussi voir la preuve que ce signe n'était point lui-même un mensonge. que ce n'était ni un tatouage, ni une habile falsification, mais bien le signe le plus naturel du monde qui ne fait qu'un avec la chair et qui est né avec la chair. Alors, quand on eut constaté l'imposture, on se retourna vers l'imposteur. Mais il avait disparu. 2. Telle une fleur qu'on coupe et qui, à souffrir, ne sait rien qu'exhaler ses parfums et mourir. Sa main. Odette avait été transportée dans le gynécée. Courbée sous le poids de la formidable aventure, épouvantée du mystère horriblement miraculeux qui faisait la nature complice de sa hideuse royauté, elle s'était laissée parfumer par les femmes comme une poupée insensible dont les enfants s'amusent. Et maintenant, elle était étendue sur les coussins, dans l'ombre du vieux palais redevenu silencieux. On n'entendait que le bruit argentin du jet d'eau, dont la tige jaillissait comme un lys du bassin profond entrevu dans la clarté de la cour de marbre, entre deux colonnettes byzantines. Odette ne pensait plus qu'à cette eau, dont la voix fraîche l'attirait. Cette eau semblait lui dire « Viens, je calme toutes les douleurs, j'apaise toutes les soifs. Quand tu seras venu avec moi, si tu n'as pas peur de moi, tu ne désireras plus rien, tu ne demanderas plus à comprendre, et surtout ton cœur oubliera le nom de Jean qui t'a trahi, qui t'a abandonné, comme on abandonne une petite bohémienne que tu es sur la route. » Elle se souleva et marcha vers cette eau, dont le chant plaintif l'ensorcelait. Ses pieds nus, que des doigts esclaves venaient de cercler d'anneaux d'or, glissaient sur les dalles polies et la conduisaient fatalement vers le bassin enchanté. Ce bassin était vaste, entre des degrés de marbre noir, et cette eau était noire comme une dalle elle-même, la dalle qui tout à l'heure allait se refermer sur elle, immobile et glacée, tandis que la tige du lys d'eau continuerait à chanter sur sa tête sa fraîche chanson argentine. Elle est morte, Odette, la petite fille ardente des Camargues, qu'un sortilège de vieille petite bonne femme de sorcière avait rendue plus languissante qu'une poupée d'Orient. Elle est morte parce que celui à qui son cœur s'était fiancé ne l'aimait pas. Cela aussi était écrit. Et Odette posa son pied sur le premier degré qui conduisait au fond de cette belle cuve noire, toute pleine de l'eau sacrée de l'oubli. Ah, comme cette eau était froide, comme elle était glacée, et puis quelle odeur de mort! Elle paraissait si belle de loin. Évidemment, il faudrait du courage. Elle n'en avait jamais manqué. Elle fit un pas encore en gémissant doucement le nom de Jean. Son cœur faisait des bonds désordonnés, comme s'il voulait sortir de sa poitrine, tel un petit oiseau qui va mourir et qui s'agite une dernière fois au fond de son nid. Elle aussi, elle allait mourir, puisque Jean ne l'aimait pas. Mais soudain, une main la tira par derrière et elle perçut un sanglot. C'était la vieille petite bonne femme de sorcière qui lui disait « Viens, je ne veux pas que tu meures. « Je te ferai voir celui que tu aimes. » Odette ouvrit de grands yeux où il y avait tout l'étonnement du monde. « Tu me feras voir Jean ?»« Je vais te le faire voir tout de suite. »« Vraiment ?» fit Odette. « Tout de suite ? C'est que je me méfie de toi, sale vieille petite bonne femme de sorcière. Je sais que vous pouvez beaucoup de choses parce que le béca, le diable, est en vous et que vous avez l'habitude de dire la bonne aventure. » Tu vas me faire voir Jean dans du marc de café ou au fond d'un verre d'eau. Va-t'en. Tiens, Jean, il est là, au fond de ce bassin. Je vois son image d'autrefois quand il m'aimait, et je vais le rejoindre. Ah, oh, ma petite colombe, il n'a jamais cessé de t'aimer. Jure-moi que tu vivras si je te le montre. Si tu me le montres vivant et qu'il m'aime, je te jure de vivre, Zina. » fit Odette haletante et joignant ses petites mains dans un geste de prière et d'espérance. « Comment ne t'aimerait-il pas ?» reprit Zina précipitamment et entraînant Odette en l'étourdissant d'un flot de paroles. si tu savais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour toi. Mais où est-il? Où est-il?
Ici.
Conduis-moi vite à lui. Oh, mon Dieu, je sens maintenant que je vais mourir de joie. Mais faut-il te croire? Faut-il te croire?
Chut! Apaise ta joie, mon petit oiseau du Saint-Esprit.
Hélas, il est ici, dans un cachot.
Dans un cachot?
Ah, le malheureux! Mais comment est-il dans un cachot?
Parce qu'il est accouru pour te délivrer, comme un fou, comme le plus brave des roumis, et qu'il s'est fait prendre.
Voilà comme il ne t'aime plus.
Oh, mon Jean!
Et elle éclata en sanglots, mais cette fois, c'était des sanglots de bonheur.
Tu le sauveras, dis!
Elle ne doutait plus de rien. Ou sans cela, moi aussi je veux qu'on me mette en prison. Et puis je suis la reine, je suis la Kéra, il faut qu'on m'obéisse. Cesse de me baiser les pieds, chère, bien chère petite bonne femme de sorcière, et conduis-moi à Jean, que je le fasse sortir de son cachot.
Alors, dis-moi, c'est vrai qu'on l'a mis dans un cachot? Dans un vrai cachot? Tu ne te moques pas de moi?
Elle ne cessait pas de parler. La vie lui était revenue, circulait à nouveau dans ses veines, étrangement figée depuis des jours et des jours. Cette Zina était extraordinaire, qui se disait l'esclave d'Odette et qui faisait d'elle tout ce qu'elle voulait. Un regard, une parole suffisait à transformer la belle enfant. Zina avait le pouvoir de la changer en statue. Tantôt Odette se sentait devenir de pierre, sous l'œil glacé de l'horrible petite vieille. Tantôt il se sentait porté vers elle de tout son cœur, innocent, comme si l'autre avait été sa vraie Raya. Toutes ces révoltes n'étaient que des jeux enfantins et sans aucune importance contre ce pouvoir occulte qui la possédait, même quand la petite vieille n'était pas là, quand elle était séparée d'elle par des murailles. Zina la prit par la main, et Odette se laissa conduire docilement dans d'obscurs couloirs dont bien peu, parmi les initiés au mystère du palais, connaissent les détours. Elle dut se courber, descendre et remonter bien des degrés, et redescendre au sein de la terre pour longer les assises monstrueuses du temple, pierres datant des antiques Pélasges sur lesquelles des civilisations disparues depuis des millénaires avaient dressé leurs premiers autels. Ainsi, Zina et Odette arrivèrent-elles au cachot des condamnés à mort qui étaient grillés comme des cages. Devant l'une de ces cages, Andrea veillait. 3. Le baiser dans la tombe. Jusque-là, Odette avait été brave, mais sa bravoure, au fond, n'était que de la joie. Elle allait revoir Jean. C'était une pensée à lui faire traverser l'enfer, le sourire aux lèvres. Mais sans doute ne s'était-elle point imaginé l'enfer comme cela, avec ses caveaux au fond desquels on voyait ramper des larves humaines, ou plutôt des spectres qui se soulevaient à demi pour voir passer des vivants dans une sorte de lumière soufrée qui semblait monter du sein vertigineux de la terre, par des crevasses dont personne n'avait peut-être jamais sondé le fond. Cette terre volcanique empestée comme une solfatare. La lumière du ciel vient d'en haut, celle de l'enfer vient d'en bas. Le malheur pour ceux qui traînaient leurs vagues apparences derrière ces grilles était que l'on ne mourait pas de ces fumées diaboliques. Non, ici, on mourait de faim. Quelques ombres squelettiques étaient accrochées aux barreaux comme si elles avaient terminé leur supplice dans un dernier spasme qui montrait leurs dents. Zina avait jeté un voile sur la tête d'Odette et l'entraînait de plus en plus vite. Mais ce n'était pas dans le moment où la petite reine espérait voir Jean qu'elle allait consentir à ce qu'on lui fermât les yeux. Elle arracha son bandeau, elle vit et poussa un cri d'horreur. Elle aperçut presque aussitôt Andrea. Il semblait le gardien tout-puissant de cet enfer. L'horreur d'Odette devint de l'épouvante. Zina la recueillit sur sa poitrine et l'enferma dans ses bras, tandis qu'Andrea s'avançait d'un pas menaçant et demandait à la vieille, de sa voix terrible, « Que viens-tu faire ici avec la Kéra ?
je viens te demander de lui ouvrir la porte de l'Inpace, où l'on a enfermé le Rumi. » lui répondit sans s'émouvoir la Zingara. « Tu es folle, Zina !» ricana l'autre sinistrement, mais tout de même un peu interloqué. « Et quel est ton but en me demandant cela ?»« Je voudrais qu'elle l'embrasse avant qu'elle ait rendu l'esprit. C'est une charité à leur faire à tous les deux, et Sainte Sara serait contente. » Cette fois, Andrea éclata de rire, mais Zina se pencha à son oreille et lui souffla quelques mots. Alors, Andrea ne rit plus. Non, il se prit à sourire, et ce sourire était plus affreux que tout. Le Siguin sortit de sa ceinture un trousseau de clés, en désigna une à Zina, la lui mit dans la main et s'éloigna hâtivement. Quand elle n'entendit plus ses pas, la vieille dit à Odette « N'aie plus peur, il est parti !» et elle la porta plutôt qu'elle ne la conduisit jusqu'au cachot de Jean. Maintenant, c'est Zina qui veille au fond de l'ombre du fatal corridor qui conduit à tant d'agonie. Elle veille pendant que Jean et Odette mêlent leurs larmes de bonheur et de désespoir. « Et moi qui croyais que tu ne m'aimais plus !» soupirait la pauvre enfant, défaillante. « C'est un crime, cela, Jean, le plus horrible des crimes !»« Elle n'est pas la seule, » pensait Jean plein de remords, « à avoir commis ce crime-là, et c'est peut-être de ce crime-là que je suis puni. » Car maintenant, sous cette fraîche haleine, devant ce front si pur, tous les horribles soupçons nés de la méchanceté d'Hubert et des singulières façons de Rouletabille se sont enfuis, dissipés à jamais. Jean n'a plus qu'une crainte, c'est qu'Odette puisse jamais soupçonner qu'il a été habité quelque temps par une aussi horrible pensée. « Figure-toi, lui dit-elle en le serrant dans ses bras, « figure-toi que cet abominable Hubert m'avait dit que tu ne voulais plus me connaître depuis que tu savais que j'étais une petite bohémienne. »« Et tu l'as cru ?» lui reprocha Jean avec douleur. « Non, non, je ne l'ai pas cru. Mais Hubert était accouru, Rouletabille était accouru, et je n'entendais plus parler de toi que par ce misérable qui me disait que je t'étais devenue indifférente. » Alors mon chagrin n'avait plus de limite. Je ne savais plus ce que je pensais. Je devenais folle et j'aurais voulu mourir. Ma chérie, ma chérie, comme je ne pouvais plus entendre cet Hubert ni le voir, comme je me détournais de lui avec horreur. Il m'a ramenée au bohémien. Mais j'aimais mieux cela que de rester encore avec lui. Mais le terrible est qu'il m'a ramené pour que les bohémiens me forcent à l'épouser à leur mode et suivant ce qui est écrit. Tout de même, je n'ai pas peur, parce que je suis la Kéra, et que la Kéra fait tout ce qu'elle veut. Zina m'a expliqué cela. Alors il faudra bien, puisque je le veux, que ces gens-là nous marient ensemble. Et c'est Hubert qui sera enfermé dans ce cachot, comme il le mérite. Après quelques semaines de réflexion, nous lui permettrons de s'en aller, et je crois que cette fois nous n'entendrons plus jamais parler de lui. » Jean écoutait son babil d'oiseau dans un enchantement divin qui lui faisait tout oublier. Cependant, ses dernières paroles le rappelèrent à l'horreur de sa situation, et il eut un triste sourire. « Mon amour, lui dit-il, tu ne sais donc pas que lorsqu'on est entré dans l'un de ces cachots, on n'en sort jamais. « Mais puisque je te fais roi !» s'écria-t-elle. « mon amour, Zina ne t'a donc rien dit ?»« Mais quoi ? Quoi ? Non, elle ne m'a rien dit. Mais toi, dis-moi tout, il faut que je sache tout. Je suis la reine, j'ai le droit de tout savoir. » « Eh bien, ils m'ont enfermée dans la terre pour toujours. » « Ne dis pas cela, ne dis pas cela, c'est absurde. Il n'y a que moi qui commande ici. À quoi donc t'ont-ils condamné ?»« Ils m'ont condamné à mourir. » Elle poussa un cri. « Tais-toi, tais-toi, tu es mon Jean, tu es mon amour. Ils ont pu te condamner quand je n'étais pas là. Mais maintenant que je suis là, tout va changer. Je n'ai qu'un mot à dire. Si tu savais comme tout ce peuple m'adore, il se roule à mes pieds, il embrasse ma robe, il crie quand je passe « Hosanna !» Je n'ai qu'à lever un doigt. Ah, cet Hubert a eu une riche idée de m'amener ici. Tu vois, c'est la Providence qui l'a voulu. Le bon Dieu est avec nous. C'était écrit, comme disent les vieux gagas là-haut dans la cathédrale. C'était écrit que je te sauverai, mon Jean adoré. Alors ils t'ont condamné à mourir, eh bien, ceux qui vont être attrapés. Et je vois la tête d'Hubert d'ici. Mais embrasse-moi donc, et n'aie pas l'air si triste. Est-ce que je suis triste, moi? Ah, dis-moi, par curiosité, à quel genre de mort ces messieurs t'ont-ils condamné? Elle lui demandait cela en souriant avec tout son petit courage. Ils m'ont condamné à mourir de faim. Horreur, ah mon chéri, et moi qui bavarde et qui te fais des risettes, à mourir de faim. Alors tu n'as pas dîné? Tu n'as pas déjeuné? Mon Dieu, depuis combien de temps es-tu ici? C'est affreux, et tu ne me le disais pas tout de suite. Zina, Zina! Elle s'était ruée contre les barreaux. Elle appelait la vieille, elle frappait du pied. Laisse donc Zina, lui dit Jean. Nous sommes si bien tout seuls. Et puis les minutes sont précieuses. Je t'assure que je n'ai pas faim. Zina! La vieille accourait, affolée, lui faisant signe de se taire. Cours chercher du pain, du lait, tout ce que tu trouveras, des confitures. Qu'est-ce que tu veux manger, mon chéri? Rien, mon amour. Tu es là, je n'ai pas faim. Je te promets, dit la vieille effrayée à Odette, d'aller lui chercher quelque chose quand tu seras partie. Mais il faut que je te reconduise d'abord chez toi. Viens, viens vite maintenant, il est temps. On t'a peut-être entendu crier. Mais je ne veux pas m'en aller tout de suite, et puis je ne m'en irai pas sans mon Jean. Va chercher le patriarche et le grand conseil. Silence ! Commanda la vieille, l'oreille tendue vers le fond du souterrain. « On vient, j'entends des pas, on descend l'escalier, prenez garde !» Elle leur fit encore un signe et alla se replonger dans l'ombre à l'affût. Odette s'était rejetée dans les bras de Jean. « Mourir de faim » pleurait-elle maintenant sur son épaule. « Ah, mon chéri, je te jure que je ne mangerai plus tant qu'ils ne t'auront pas donné à manger. Si tu meurs, je meurs. Que mon père me pardonne. » Jean avait tressailli. Ton père, mon Odette, ton père, est-il possible que tu ne saches pas encore? Quoi? Quoi, mon père? Parle-moi de mon père. Et comme Jean se taisait, ton silence m'annonce le pire. Si ce n'était pas cela, tu ne te tairais pas. Parle, Jean, fit-elle d'une voix expirante. Je croyais qu'aucun malheur ne pouvait plus me frapper. Alors Jean la mit au courant de l'affreuse chose. Elle connut le drame de l'Avardan. « Il n'y a rien au monde, soupira-t-elle en laissant couler de nouvelles larmes. Rien que notre amour. » Andrea était allée rejoindre Calista. Celle-ci était loin de l'attendre. Elle savait qu'il avait demandé à veiller sur Jean et qu'il avait pris la responsabilité de la garde du Roumi condamné à mort. Étendue sur les tapis, elle s'enivrait des parfums qui brûlaient au fond des cassolettes. Elle ne pensait qu'au condamné, et non à son gardien, qu'elle redoutait tous les jours davantage, et dont l'amour violent la remplissait de peur, ou plutôt d'une inquiétude singulière qui la faisait frissonner dès qu'il apparaissait. Elle le détestait toujours, certes, mais elle ne le méprisait plus. Elle le voyait encore dans la forêt de Témévar, un couteau à la main, et prêt à la tuer si elle ne lui cédait pas. Un événement fortuit l'avait sauvé. Mais ce jour-là, à cette minute, il avait été son maître. « Ah, c'est toi ? » dit-elle de sa voix la plus maussade, quand elle l'eut reconnu dans l'ombre où il s'avançait. « Qu'est-ce que tu me veux encore ?»« Tu reçois mal ton fiancé, » fit Andrea froidement en s'asseyant près d'elle, les jambes croisées, et en ramassant le narguilé qu'elle ne lui tendait pas. « Nous ne sommes pas encore au jour des noces, » répliqua-t-elle sèchement. « Gageons, » prononça Andrea, « que tu me recevras mieux si je venais te dire Le Roumi ne veut pas mourir avant de t'avoir revu. »
Calista, comme galvanisé, se souleva. « Il t'a dit cela ?»«
Que je ne vois jamais la face de Debla Temeata, la mère de Dieu, si je mens, »
attesta le Siga.
« Le Roumi me l'a demandé par 3 fois.
Sans doute n'espère-t-il plus qu'en toi, Calista.
Ou peut-être encore t'aime-t-il bien sincèrement »
ajouta-t-il en ricanant. Et veut-il, avant de mourir, te demander pardon de la peine dont il a su t'empoisonner le cœur, tant est que le maudit ne soupire plus qu'après toi.
Trêve de discours, Andrea. Que lui as-tu répondu quand il t'a demandé cela?
Que voulais-tu que je lui réponde? Il s'adressait à mon bon cœur. Un chameau me ferait pleurer en me prenant par les sentiments. Je lui ai répondu que je te transmettrais la requête et qu'il en arriverait ce qui te plairait. Au fond, je savais que cela te ferait plaisir, vois-tu. Tu es triste à porter le diable en terre. Tu me revaudras peut-être cela avec un sourire. Et pour un sourire de toi, Calista, j'immolerai ma raya.
C'est bon, on verra cela plus tard. Alors, tu me permettrais de l'approcher ?
Est-ce que j'ai jamais pu te refuser quelque chose ?
Vraiment, tu me conduiras auprès de lui ?
Oui, puisqu'il va mourir, répliqua net Andrea en se levant et en prenant les devants.
Elle le suivit dans une grande fièvre. Si c'était vrai pourtant que Jean l'aima toujours. On s'aperçoit quelquefois de ces choses-là au moment suprême, dans le dernier recueillement de la conscience. Il n'y avait peut-être entre eux qu'un affreux malentendu où leurs deux orgueils s'étaient heurtés dans un mortel combat. Qu'il fît seulement un geste vers elle et elle trouverait bien le moyen de le sortir de cette tombe. Mais soudain elle s'arrêta. Elle était ainsi faite que sa pensée et son acte couraient aux extrêmes avec une spontanéité contradictoire qui faisait le désespoir et le désordre de sa vie. Andrea se retourna, la considéra dans son immobilité haletante. « Quoi encore ? » questionna-t-il rudement. « Et s'il ne m'avait fait venir que pour m'insulter une dernière fois ? » émit-elle la sueur aux tempes.
« C'est bien possible, » répondit Andrea imperturbable. « Il ne m'a pas fait part de ses projets. Qu'est-ce que tu décides ? » ?»«
Si c'était pour cela, je ne te le pardonnerais pas. »
lui jeta-t-elle l'œil sombre. « Voilà bien la justice des femmes, » conclut Andrea.
« Eh bien, reste. »
Mais il savait qu'elle ne resterait pas, et il fit mine de s'éloigner, comme si cette affaire ne le regardait plus.
« Andrea ! Enfin, toi qui l'as vu, toi à qui il a parlé, qu'imagines-tu ? »
Foi de Balogard !
Cette classe de bohémiens voleurs dont nous avons eu déjà l'occasion de nous entretenir est bien connue en effet pour ses principes austères, son respect des traités et même de la parole donnée une fois pour toutes.
Foi de Balogard,
j'imagine.
Et il lui dit ce qu'il imaginait, penché sur elle, la brûlant de son regard où s'allumait le feu noir du désir.
J'imagine que lorsqu'on a eu le bonheur de t'avoir dans ses bras, c'est une chose que l'on peut difficilement oublier.
Il avait dit ce qu'il fallait.
« Eh bien, allons, Andrea, » ordonna-t-elle impatiente. Mais l'autre était de plus en plus penché sur elle.
« Et moi, qu'aurais-je pour ma peine ?
Que veux-tu ?
T'embrasser. »
Il n'attendit pas sa permission. Elle se défendit vaguement, et comme il collait sauvagement sa bouche sur ses lèvres, elle le mordit. Il lui rendit sa morsure. Ils ne crièrent ni l'un ni l'autre. Si elle avait eu une arme entre ses mains, elle lui en eût labouré le cœur. Quant à lui, il dit simplement, en essuyant sa lèvre sanglante, « J'ai eu ma part. À toi maintenant de prendre la tienne. Viens, le Roumi n'aura que mes restes. » Et ils descendirent dans les caveaux. C'était leur pas que Zina avait entendu dans l'escalier. Mais elle pensait qu'Andrea revenait seule. Elle lui avait diaboliquement inspiré cette idée de laisser Odette rejoindre Jean un instant dans son cachot, comme une bonne vengeance à tirer de Calista qui n'avait pas cessé d'aimer Jean, comme un jeu cruel dont il pourrait s'amuser plus tard en racontant cette bonne histoire à la cigaine, une histoire à la dégoûter pour toujours des roumis. Mais Zina n'avait pas imaginé une seconde qu'Andrea aurait l'audace d'aller chercher Calista pour qu'elle assistât à la scène. Elle se disait « Pendant ce temps-là, Andrea fait la cour à Calista et il doit bien rire en pensant au tour qu'il est en train de lui jouer. » La vieille fut épouvantée en apercevant Calista, mais elle n'eut pas le temps de dire un mot. Andrea l'envoya rouler au plus loin après lui avoir repris les clés. Et ils passèrent. Une lueur mystérieuse, venue d'on ne sait où, glissait sur les murs lépreux et allongeait son rayon entre deux barreaux. Deux jeunes têtes, derrière ces barreaux, s'embrassaient éperdument. C'était une eau forte à la manière noire, quelque chose d'extrêmement violent et aussi d'infiniment délicat. Un baiser gravé par Reynolds. Enfin, c'était quelque chose, surtout, qui déplut à Calista. 4. Le premier et le second moyen du patriarche. La cigaine faillit se pâmer, car on se pâme de rage comme on se pâme de bonheur. Mais le premier moment de surprise passé, elle retrouva tout son ressort, et le sentiment qui l'animait la projeta en quelque sorte contre les barreaux, qu'elle se mit à secouer avec démence. Devant elle, il y avait l'épouvante des amoureux surpris. Derrière elle, il y avait le rire d'Andrea et les cris de Zina. Et finalement, il y eut la galopade des gardiens accourus à tout ce tumulte. Andrea s'empressa d'ouvrir la porte du cachot. Sans doute avait-il pensé que la fureur de Calista s'exercerait sur Jean. C'était là l'erreur d'une psychologie sommaire. Car la rage de la femme va toujours à la femme dans le premier moment. Calista se rua sur Odette, mais elle rencontra Jean qui s'interposait. Odette n'avait pas fui, bien au contraire. Ses ongles griffèrent, labourèrent de sillons rouges le visage de Calista, momentanément réduite à l'impuissance par les poings de Jean qu'elle mordait. Toute cette confusion ne cessa que par l'intervention des gardes qui firent sortir Odette en l'emportant, malgré ses cris, ses ongles, ses ruades. La porte du cachot fut refermée sur Jean. Calista s'était retournée, frémissante de vengeance sur Andrea, qui lui désigna Zina comme la seule coupable de cette cruelle machination. On entendit bientôt Zina crier, comme si on la découpait en morceaux. Et peut-être la découpait-on en morceaux. Odette, pendant ce temps, était enfermée dans son appartement, et le patriarche prévenu. Il ne se présenta devant elle qu'une heure plus tard, croyant sans doute la petite reine calmée. Il vint la voir avec Hubert. Tous deux la trouvèrent accroupie dans un coin du divan comme une petite bête boudeuse et rageuse. Non loin de là, il y avait sur les tapis un grand désordre de vaisselle et de cristaux brisés. Les plateaux qui avaient porté les confitures à la rose et le borge à la smitan avaient roulé un peu partout. Le patriarche considéra les effets de la colère royale d'un œil plutôt amusé. Et c'est avec infiniment de respect qu'il demanda à sa souveraine, par le truchement d'Hubert, si elle n'avait pas faim. « Si, j'ai faim !» répondit Odette. « Mais je ne mangerai pas. Je veux qu'on me laisse en paix. Je veux mourir de faim, comme Jean. » Et elle redressa un peu sa petite adorable frimousse au front têtu pour jeter encore à Hubert ces mots destinés à le renseigner définitivement sur l'état d'âme de sa fiancée. « Et vous savez, je mourrai heureuse, car j'ai vu Jean, et je sais qu'il n'a pas cessé de m'aimer. Et maintenant, allez-vous-en. Va-t'en, je te dis. » « Va-t'en, je l'ordonne. Je n'ai plus rien à vous dire, à toi et à tes patriarches. Allons, la porte, je veux qu'on m'obéisse. Je suis la Kéra. » Hubert, assez désemparé, traduisit. Le patriarche avait déjà compris. Le ton et le geste ne lui avaient rien laissé à deviner. Il hocha la tête et prononça avec un grand calme « Tu vivras, car il faut que les écritures s'accomplissent. Là-dessus, il sortit, plein d'admiration pour sa petite reine. « C'est une vraie gitane, » dit-il à Hubert quand ils furent seuls. « Ah, elle est bien de la race. Elle fait plaisir à voir et à entendre. » « J'éprouve à cela moins de plaisir que vous, » répliqua Hubert avec amertume. « Et vous me permettrez de m'étonner de votre enchantement, car enfin je ne vois pas dans tout cela comment les écritures pourront... »« Je constate, avec satisfaction, » interrompit gravement le grand prêtre, « que les écritures vous préoccupent. Eh bien, il y a deux moyens de ne pas faire mentir les écritures. Le premier moyen ne dépend que de vous. » « Et quel est-il ? » demanda Hubert avec empressement, bien compréhensible. Le patriarche ne répondit pas, mais glissa dans la main d'Hubert la clé qui venait de fermer la chambre d'Odette. Hubert s'inclina en rougissant, car c'était encore un primitif. Cependant, il fit quelques pas vers l'appartement de la Kéra. Et puis il s'arrêta une seconde, se retourna vers le patriarche et lui fit observer « Vous ne m'avez pas dit le second moyen. »«
Je vous le dirai, » répondit le patriarche, « si le premier ne réussit pas. »
Hubert rentra dans la chambre de la Kéra. Il n'y rentrait pas avec joie. Il imaginait facilement que la clé que venait de lui donner Féodore n'était pas encore celle du bonheur tant attendu. Même s'il n'avait pas été instruit par sa récente conversation avec Odette, il connaissait trop celle-ci pour oser espérer que de quelque façon qu'il l'abordât, elle allait lui céder. Userait-il de la brutalité? C'était sa dernière arme, et en dépit de sa nature fruste, elle lui répugnait. Obtiendrait-il davantage d'un moment de faiblesse causé par l'effroi, par l'épouvante? Mais il savait qu'Odette n'était faible et fragile qu'en apparence. Alors... Alors, il n'était pas venu si loin, et il n'en avait pas fait tant pour reculer au dernier moment. Il entra donc, mais c'est bien le cas de dire qu'il n'était pas à la noce. Odette était au fond de la chambre, sur le divan où elle s'était jetée, sanglotante, après le départ du grand prêtre. Elle ne pensait déjà plus à Hubert, à qui elle avait dit son fait une fois pour toutes, et qui devait comprendre qu'elle ne serait jamais sa femme. Mais à Jean, qu'elle voulait sauver à tout prix. Quand la porte s'ouvrit, elle espéra voir entrer Zina, qui, dans ses derniers moments, s'était montrée sa seule alliée, et fut cette fois tout à fait effrayée de voir revenir Hubert. Celui-ci entrait, sournois et silencieux, et refermait soigneusement la porte à clé, puis lentement se retournait vers elle. Lentement, elle se redressa, reculant jusqu'à l'angle du mur. Il s'avançait, la tête basse, le front dur. Elle lui cria, la voix rauque, « N'approchez pas! Ne faites pas un pas de plus !» Alors il releva la tête et la vit, ombre noire dans le voile noir, que Zina, avant leur expédition dans les sous-sols du palais, lui avait jeté sur les épaules. Sous cette enveloppe funèbre, on apercevait seulement une pauvre petite tête de cire, aux yeux immenses, agrandis par l'angoisse de ce qui allait arriver. Hubert dit « N'ayez pas peur de moi. »«
Je n'ai pas peur de vous, » lui répliqua-t-elle, les dents claquantes d'effroi. « Je n'ai jamais eu peur de vous. »«
Odette, si vous le voulez, vous n'aurez jamais d'esclave plus soumis que moi. »«
Je ne veux pas d'esclave. Allez-vous-en. « Pourquoi êtes-vous revenu? Je vous ai chassé. Je ne veux plus vous revoir. Allez-vous-en ou je crie. »
Hubert eut un méchant sourire.
« Vous souriez, lâche. Ah, n'avancez pas plus loin que ce tapis, ou je vous jure. »
Une longue épingle à tête de rubis retenait son voile. Elle s'en était munie, et écartant l'étoffe qui couvrait son jeune sein, elle avait appuyé la pointe de la fine tige d'acier sur son cœur. Elle ne tremblait plus. Elle n'avait plus peur de rien. On voyait surtout qu'elle n'avait pas peur de mourir. Ses yeux étaient fixes, comme si elle entrait déjà dans la mort. Hubert s'arrêta et s'assit, laissant entendre un gémissement.
« Comme vous me haïssez, » dit-il. « Pourquoi? Qu'ai-je fait?
vous m'aimiez pourtant bien autrefois. Vous êtes le dernier des misérables, lui jeta-t-elle en continuant d'étreindre son arme improvisée. Que n'avez-vous pas inventé pour me tromper? Une conversation avec mon père? Mon père était mort. Et tout ce que vous m'avez dit de Jean, c'est abominable. Vous êtes un criminel.
C'est vrai, avoua-t-il en secouant la tête. Mais c'est vous qui m'avez rendu ainsi. Je n'étais pas comme cela autrefois quand vous m'aimiez.
Vous êtes fou, je ne vous ai jamais aimé.
Ne dites pas cela, ne dites pas cela, Odette. Rappelez-vous mon départ, rappelez-vous comme vous étiez triste, rappelez-vous comme nous étions heureux quand nous courions tout seuls dans les ségonaux et que nous lancions nos chevaux dans des courses à perdre haleine, quand la Camargue était pour nous deux tout seul. Vous ne vous plaisiez qu'avec moi, alors. Mais tout a bien changé depuis. Comment voulez-vous que je ne sois pas devenu méchant? Écoutez, Odette, je vous demande pardon de mes mensonges et de mes intrigues. Je les ai bien payés depuis. Mais l'idée que je pouvais vous perdre ne m'entrait pas dans la tête. Et je vous le dis encore aujourd'hui, elle ne m'entrera jamais dans la tête. On a profité de mon absence. Si j'étais restée là, tout cela ne serait pas arrivé. Eh bien, je ferais si bien que je regagnerais le temps perdu. Qu'est-ce que je demande? Redevenir pour vous le bon compagnon d'autrefois, celui en qui vous aviez confiance, qui vous protégeait et qui aurait donné sa vie pour vous. Ma vie, elle est à vous. Par la fatalité de votre naissance, vous courez une aventure terrible dont on a voulu me rendre responsable et à laquelle je ne me suis mêlée que pour votre salut.
Vous osez dire cela, vous? Vous? S'écria-t-elle indignée.
Il baissa la tête avec accablement et prononça d'une voix sourde
« J'aurais fui au bout du monde avec vous si vous l'aviez voulu, mais vous m'avez repoussé, alors je vous ai ramené ici, persuadé qu'il vous aurait toujours retrouvé, et vous ne pouvez rien faire contre ce qui est écrit. »
Tout de même, vous n'oubliez pas alors qu'il était écrit que l'on devait me donner à celui qui me ramènerait.
Odette, Odette, c'est vrai. Il est écrit que nous devons nous marier, mais je n'avais pas besoin de lire le livre pour savoir cela. La chose était écrite dans mon cœur, depuis le jour où, pour la première fois, vous avez applaudi de vos petites mains ma victoire à la Ferrade des Saintes-Maries.
Oui, répéta-t-il sans lever la tête, nous devons nous marier. Vous ne pouvez rien contre cela.
Jamais, jamais, je le jure.
Il se laissa glisser à genoux et mit ses mains jointes devant ses yeux.
Et moi, Odette, je vous jure, lorsqu'ils nous auront mariés, de vous respecter comme le plus humble de vos serviteurs. Je jure de ne paraître auprès de vous que pour vous faire entendre des paroles d'esclave. Moi, Hubert de Lauriac, le roi des gardiens de la Camargue. Un signe de vous me fera disparaître.
Disparaissez tout de suite! Lui lança-t-elle excédée d'une déclaration qui aurait pu la pitoyer, mais dans laquelle, avec sa cruauté d'enfant, elle ne voulait voir qu'un bavardage hypocrite destiné à la désarmer. Alors Hubert se releva, l'œil mauvais.
« C'est votre dernier mot ?»«
Oui, » fit-elle, « c'est mon dernier mot avant mon dernier geste. » Et elle brandit alors sa longue épingle. Il lui jeta un regard féroce. Sa gorge eut comme un râle et ses poings se fermèrent, tandis que sa face s'empourprait soudain sous un coup de sang. Elle put croire qu'il allait se jeter sur elle, mais il se détourna brusquement et sortit. C'est dans un état lamentable qu'il se retrouva devant le patriarche, chez lequel il s'était fait conduire.
« Je vois tout de suite, » prononça Féodore en le considérant avec pitié, « que le premier moyen n'a pas réussi. « Rendez-moi la clé, mon jeune ami, »
ajouta-t-il avec un indéfinissable sourire. L'autre lui jeta cette clé dans un geste qui n'était rien moins que respectueux.
« Calmez-vous, » insista doucement Féodore, « car si le premier moyen n'a réussi qu'à vous mettre en cet état, qu'arrivera-t-il de vous quand vous serez au courant du second ?»«
Je suis venu pour vous demander quel est ce second moyen, » gronda Hubert. « Et s'il ne dépend que de moi,
Malheureusement pour vous, il ne dépend pas de vous, mon cher. »
Le grand prêtre, sur cette parole énigmatique, s'était levé et faisait un signe. Un garde entra qui reconduisit Hubert, de plus en plus désemparé et singulièrement inquiet des dernières façons de son hôte. Quand il entra dans l'appartement qui lui avait été réservé au palais même, la première personne qu'il y trouva fut Calista. Elle paraissait aussi agitée qu'il était abattu. Elle avait écarté son voile pour se faire reconnaître.
« Monsieur de Lauriac ?» lui dit-elle à voix basse et après s'être assurée que personne ne pouvait les entendre. « Vous savez qui je suis. Vous aimez Odette ? Je la hais. Mais je ferai pour vous, par haine, ce que vous désirez, vous, par amour. Je veux votre mariage avec Odette. Il ne faut rien me cacher de ce qui vient de se passer entre vous et le patriarche. Que vous a-t-il dit ? »
Hubert considéra une seconde Calista. C'était encore une associée, celle-là. Ce que la pieuvre avait promis de faire à cause de Rouletabille, celle-ci le lui proposait à cause de Jean. Mais en fin de compte, ni l'une ni l'autre ne lui servait de rien. Il n'avait plus entendu parler de madame de Méran. Et que pouvait pour lui Calista ? Il haussa les épaules et eut le courage de se railler lui-même. « Tout le monde veut mon mariage avec Odette, » fit-il. « Mais le malheur est qu'Odette ne veut pas se marier avec moi. À cela, ni vous, ni moi, ni les Écritures ne peuvent rien. » « Et le patriarche ? Que vous a dit le patriarche ? » répéta-t-elle avec impatience. « Le patriarche ? Il avait, paraît-il, deux moyens de réaliser la prophétie des Écritures. Eh bien ? Eh bien, il a mis à ma disposition le premier, mais il n'a pas réussi. » avoua-t-il avec un ricanement sinistre. « Et le second ? Vous a-t-il parlé du second ? » ?»«
Il m'a dit que ça ne me regardait pas. »
« Eh bien, je suis venue, moi, pour vous en entretenir. Mais auparavant, j'avais besoin de savoir. »
« Sachez qu'Odette est prête à se tuer plutôt que de me céder. Voilà où j'en suis. Je vous écoute. »
« Apprenez donc qu'avant de vous ouvrir la chambre d'Odette, les vieillards ont tenu un conseil dans lequel il a été décidé de donner à la Kéra l'époux annoncé par le livre des ancêtres. » Si cet époux ne peut être M. Hubert de Lauriac, eh bien, ce sera un autre, voilà tout. »
Hubert se redressa et d'un geste sauvage saisit la main de Calista.
« Un autre ? Quel autre ?
Eh bien, l'autre, celui qu'elle aime. »
« Jean ?
Oui, Jean, puisqu'elle n'en veut pas d'autre. »
« Mais c'est impossible !» râla Hubert. « Ah, ça, seriez-vous venu ici pour vous moquer de moi ? « Prenez garde. »
Rien ne leur est impossible, si Jean consent à vivre avec Odette, ici, en prince consort. On s'arrangera pour qu'Odette s'échappe et qu'il ramène Odette lui aussi. C'est aussi simple que cela. Vous comprenez qu'il n'hésitera pas entre Odette et la mort. »
Hubert broyait la main de cette femme.
« Calista ! Calista ! Vous n'êtes pas venu m'annoncer une chose pareille sans avoir votre idée, votre plan. »
« Mon plan, il est aussi simple que le leur, » laissa-t-elle tomber froidement. « Il faut que Jean soit mort demain matin. »
5. Nous ferons tout le mal que vous ordonnerez, peut-être même davantage. » Shakespeare, Le Marchand de Venise. Carnet de Rouletabille. Quelle turne que cette Severturn ! Si nous en sortons jamais, nous aurons de la chance. Je sais bien que j'ai le bijou Siguin qui est comme le « Sésame, ouvre-toi » de ce labyrinthe diabolique. Mais j'en ai déjà beaucoup usé, sans compter que nul n'ignore qu'il est beaucoup plus facile d'entrer dans un labyrinthe que de s'en évader. Le grand malheur est qu'il y a dans cette horrible histoire un autre signe qui nous est aussi fatal que celui que je sors à chaque instant de ma poche mais propice. C'est le signe de la couronne. Il existe bel et bien, quoi qu'on en ait dit, et il n'est pas chiche. Il est même plus gros qu'un pois chiche. C'est une couronne royale, parfaitement dessinée, et grosse comme le bout du petit doigt de la main. Une couronne que notre pauvre Odette possède au-dessous de l'omoplate gauche. Qu'elle ne l'ait jamais vue, à la rigueur, cela pourrait s'expliquer, car ce n'est pas à Lavardin que l'on dispose d'un jeu de glace qui se rencontre à Paris dans le cabinet de toilette de plus d'une coquette. Mais que personne ne l'ait jamais renseigné sur cette particularité, que sa femme de chambre ne lui en ait jamais soufflé mot, qu'Estève m'ait à ce point menti, voilà qui mérite réflexion. Réfléchissons donc, j'en ai le temps. Je n'ai eu que celui de disparaître après la fameuse scène du temple. Assurément, si les Siguin avaient été moins occupés de leur Kéra, mon compte était bon. Mais, comme on dit en stratégie, j'avais pris la précaution d'assurer mes arrières, et j'avais déjà repéré certains petits escaliers tournants dans le troisième pilier de gauche, grâce auquel il me serait loisible d'opérer une prompte retraite. Par là, je savais pouvoir gagner une plateforme d'où je me laisserais glisser dans une courette communiquant directement avec l'extérieur. Il n'y avait qu'une vingtaine de marches à monter. Mon mauvais ou mon bon destin voulut qu'au moment où je m'y élançais, j'entendisse au-dessus de moi un pas pesant, et au lieu de monter, je descendis. Je descendis si bien que je me trouvai bientôt dans le soubassement du monument, et comme j'entendais toujours au-dessus de moi le pas qui me menaçait, j'enfilai le premier corridor qui s'offrait à moi. De corridor en souterrain, je me trouvai au bout de quelques minutes dans le palais des patriarches. Cette énorme bâtisse doit être vieille comme le monde. En tout cas, elle justifie tout ce que l'on a pu écrire sur l'architecture souterraine des châteaux forts du Moyen-Âge et sur les précautions que les maîtres du dessus avaient prises pour, aux mauvaises heures, pouvoir vivre dans le dessous ou assurer leur fuite dans la campagne environnante. Naturellement, c'est sinistre au possible, avec là-dedans une odeur de soufre particulière que je n'ai rencontrée que là. Les dessous de ces Severturn, c'est la cave du diable. Mais j'en ai vu bien d'autres dans le château noir. Et ce n'est pas après avoir traversé en hauteur les oubliettes du seigneur Golow que je me laisserai impressionner par cette turne, si sévère soit-elle. De ci, de là, une veilleuse au fond d'une lanterne accrochée à la paroi, et puis tout d'un coup une porte, ou plutôt une grille, derrière laquelle j'aperçois un escalier. Ce qui me fait penser que ce chemin doit être assez fréquenté. Dans cette espérance, j'attends les événements au fond d'un petit retrait où je me suis jeté. Voilà une heure que j'attends. Oui, j'attends que quelqu'un vienne m'ouvrir cette grille qui me sépare d'Odette. J'attends, appuyé autant que possible sur le bon bout de la raison, qui un instant a failli m'échapper et que je retiens plus solidement que jamais. Quelque chose que je tiens non moins solidement, c'est mon warning, car enfin, j'entends à nouveau les pas. Hé hé, voilà un noble vieillard qui ne m'est pas tout à fait inconnu. Ma parole, c'est ce cher directeur de la bibliothèque, le polyglotte distingué, le plus grand savant de Severturn. Il rentre sans doute chez lui après la cérémonie, car il n'a pas encore quitté son uniforme de grand gala. Sa dalmatique à grandes manches et son bonnet à bandelettes qui font ressembler tous ces vieillards du Grand Conseil à des diacres byzantins. Voilà de somptueux oripeaux qui ne dépareraient pas une collection du faubourg Poissonnière et qui pourraient m'être de quelque utilité en attendant qu'ils deviennent un agréable souvenir. Va-t-on pouvoir s'entendre? Je l'espère pour lui. Il est remarquable que ces grands dignitaires, en dépit de la solennité de leurs fonctions, conservent dans leur mine et dans leur manière je ne sais quoi de rusé et de railleur qui est bien particulier à la race. J'avais déjà relevé la chose chez Féodore lui-même. Tout patriarche qu'il est, il ne faut pas oublier qu'il est le patron des balogards, qui n'ont pas leur pareil dans tout genre humain pour la supercherie. Quant à celui qui vient là, sa physionomie n'a absolument rien de redoutable. Elle annonce un fripon plutôt qu'un scélérat. on n'y distingue plus d'astuce que de férocité. Ses yeux noirs et vifs, son regard effronté, le sourire sardonique qui ne le quitte pas, lui donne un air subtil qui me rassure. Avant de devenir bibliothécaire, il a peut-être été maquignon. En tout cas, il a dû faire parler de lui dans les foires ou sur les marchés. Entrons en conversation. Eh bien, ce cher docteur de la bibliothèque nous a compris tout de suite, mon Browning et moi. Il m'a simplement demandé de le ligoter le plus proprement possible, de telle sorte qu'on ne pût l'accuser de complicité dans mon entreprise. Et il m'a fourni, grâce à son costume un peu compliqué et à ses bandelettes, des liens nécessaires pour cela. Il m'a fait promettre aussi, quand je l'eus traîné dans le retrait qui avait été jusqu'alors mon refuge, de revenir le trouver le plus tôt que je pourrais, de lui rendre sa dalmatique, à laquelle il semblait tenir beaucoup, et de ne raconter cette aventure à personne, si la suite des événements permettait de ne la point ébruiter. Quand je lui eus accordé tout cela, il m'en récompensa en me procurant, outre la clé de la grille, quelques renseignements fort utiles pour me guider dans ce dédale. Au revoir et merci. Ici, un blanc sur le carnet, puis ses notes. Passé partout sans encombre. Grosse agitation dans le palais. L'installation de l'Aquera a mis tout en l'air. Je profite de ce désordre pour me faufiler dans les appartements. Arrivé dans un moment où Calista massacrait Zina, elle l'a laissée là, aux abords du gynécée, quasi morte. Pourvu qu'elle ne l'ait pas tuée tout à fait. Non, elle respire encore. Je la soulève, je la dorlote, elle ouvre les yeux et je me fais reconnaître. À chacun son tour de soigner l'autre, rappelez-vous New Watcher. Tout en pensant sommairement ses plaies, j'ai avec la vieille une conversation des plus intéressantes. Elle m'apprend ce qui vient de se passer dans le cachot des condamnés à mort. Pauvres gens. Mais comme toujours, Odette d'abord. Et la vieille que je soutenais m'a conduit en se traînant jusque dans l'appartement de l'Aquera, par le chemin de la domesticité. J'ai vu Odette. Ici, quelques lignes qui ont été biffées avec soin, comme il est arrivé plusieurs fois quand le reporter avait spontanément confié à son carnet ses impressions sur Mademoiselle de Lavardan. Je laisse Odette avec Zina, malgré ses supplications, car voilà que Zina lui a fait peur à nouveau. Au fait, la vieille échevelée, ensanglantée, avec ses yeux de folle qui commencent à hypnotiser Odette, est effrayante à voir. Je voulais rester, mais c'est elle qui m'a chassée. Va-t'en, va-t'en, j'ai besoin d'être toute seule avec elle. Et je me suis enfuie pour ne plus entendre le soupir d'angoisse, le halètement étrange de la pauvre enfant, aussi incapable de résister au regard de Zina que la palombe à l'œil rond et fixe de l'épervier. Un blanc, quelques lignes plus loin. Cette Calista, je l'ai encore entrevue entre deux portes, comme elle sortait d'un conciliabule avec Hubert, qui semble avoir élu domicile ici. Ils furent rejoints par une vieille, à la manière de Zina, qui embrassa les pieds et les mains de Calista, en lui bredouillant des syllabes rauques qui sortaient de sa bouche, édentées comme un chant de crapaud. « Vous pouvez être tranquille, » a dit Calista à Hubert. « Celle-ci va au-devant de nos désirs. Si elle pouvait faire mourir le roumi deux fois !»« Décidément, il faut que je m'occupe de Jean tout de suite. Oui, il nous faut gagner coûte que coûte quelques heures. » Un blanc, et puis « Pas perdu ma nuit, et tout risqué pour pouvoir dire deux mots à Jean à travers la grille des condamnés à mort. Deux mots utiles. » Au matin, est vu arriver le petit chasseur de l'hôtel des Balkans, porteur d'un pli pour Hubert. « Attention, attention à la pieuvre !» 6. Une des façons que l'on avait à Severturn de faire passer aux prisonniers le goût du pain. Ce matin-là, qui était le lendemain du jour où nous avons vu s'accomplir tant d'événements à Severturn, M. Nicolas Tournesol était en train de se faire la barbe dans sa chambre de l'hôtel des Balkans, anciennement du caravansérail, quand sa porte s'ouvrit brusquement et la figure de Rouletabille fit son apparition. « Monsieur Nicolas Tournesol, s'il vous plaît ?»«
Monsieur Rouletabille ?»«
Ah, monsieur, vous me connaissez ?»«
Monsieur, je connais tout le monde. Il serait étonnant que je ne connusse pas le plus célèbre reporter de l'Europe.
Monsieur, asseyez-vous donc. Je termine ma toilette, vous ne me gênez pas. Je vous ai rencontré autrefois. Je vous ai vu hier dans la basilique de Severturn. Et ma foi, je vous dirai que je suis fort heureux de vous revoir aujourd'hui. » Car je croyais bien ne plus vous revoir jamais.
Savez-vous bien, monsieur, que ces gens ont l'air fort mal disposés à votre égard, et que je ne saurais trop vous conseiller de prendre sa fille.
Sa fille ?
Oui, la fille de cet air-là. Prendre la fille de l'air. Vous ne me comprenez pas ?
Oh, si, si, charmant, je vous demande pardon.
Il n'y a pas de quoi. C'est un mauvais calembour. Comme s'en permettait autrefois les gaudissards qui faisaient la province. Monsieur, je suis le dernier commis voyageur, et je vends de tout. Je suis l'élément artériel, si j'ose dire, du fabricant, du consignataire, du négociant en gros, le vade semper du double emploi, du rossignol et du trop-plein. Permettez-moi, monsieur, de vous offrir quelque chose. Puis-je vous demander ce qui me vaut l'honneur de votre visite ?
Une chose grave, monsieur. Je viens vous trouver en votre qualité de Français. Vous représentez la France ici, monsieur Tournesol.
Mon Dieu, fit Tournesol, modeste pour la première fois de sa vie. Je représente surtout une bonne marque de champagne.
Monsieur, voici de quoi il s'agit, et vous allez me comprendre tout de suite. Puisque vous avez assisté aux événements d'hier, je n'ai pas à vous apprendre qu'un Français, Monsieur Jean de Santierne a été condamné par le Grand Conseil à être enfermé dans un cachot et à y mourir de faim.
Monsieur, la chose s'est passée en dehors de ma présence, mais enfin je vous crois sur parole.
Non, je n'ai pas assisté à la condamnation de ce pauvre jeune homme, et je ne suis arrivé dans le temple que dans le moment où l'on y acclamait la nouvelle reine, contre quoi, du reste, vous protestiez avec énergie.
« Monsieur Tournesol, il se prépare là un double crime abominable. »«
C'est bien possible, » fit Monsieur Tournesol en nouant sa cravate et en se faisant des mines dans la glace. « Tout est possible en politique. »«
Monsieur, je sors de chez le consul de Valachie, qui m'a répondu exactement comme vous que tout est possible en politique. » Réponse qui ne m'a pas étonnée du reste.
Et comme vous avez raison, monsieur, si nous intervenions dans la politique intérieure des peuples, il n'y aurait plus de relations internationales possibles. Le commerce serait arrêté.
La vente du champagne suspendue.
Hélas, monsieur, à qui le dites-vous ? La politique a déjà failli me ruiner. Si l'on n'avait pas retrouvé la reine.
Rouletabille se leva et fit un mouvement pour sortir.
Tournesol le rattrapa.
« Mais ne partez donc pas comme ça. Je vous assure que si je puis vous être utile... »«
Vous ne le pouvez pas, monsieur. En sortant de chez le consul de Valachie, j'ai demandé à l'hôtel s'il n'y avait pas ici un Français. On m'a répondu « Oui, il y en a un, monsieur Tournesol. »«
Eh bien, monsieur, on s'est trompé. Il n'y a pas ici un Français. Il y a un commis voyageur international. Comme je n'ai rien à vous acheter, je m'en vais. Adieu, monsieur Nicolas Tournesol. »
« Monsieur Rouletabille !»
s'écria le commis voyageur, bouleversé déjà par le remords. Car, au fond, sous ses dehors un peu cyniques, Monsieur Tournesol avait le meilleur cœur du monde.
« Je vous en conjure, ne me quittez pas ainsi. Oui, ce qui se prépare est abominable, et je veux être votre ami, et je veux vous aider, quelque désastre qu'il puisse en résulter pour moi. Que faut-il faire ?»
Rouletabille se retourna et lui serra la main.
« Vous êtes un brave homme, lui dit-il, et je n'hésite pas à me confier à vous. Je comprends votre situation. Il se trouve, sans que vous en ayez rien fait pour cela, que vos intérêts sont immédiatement opposés aux nôtres.
Ne me parlez plus de mes intérêts, monsieur. J'ai honte de m'en être souvenu alors qu'il s'agit de sauver deux malheureux jeunes gens, deux Français. Foi de Nicolas Tournesol, je suis votre homme. »
Monsieur, je me confie entièrement à vous. Il y a ici, n'est-ce pas, une madame de Méran. Charmante, monsieur, une femme exquise, avec qui je suis assez bien du reste, et avec laquelle je ne désespère pas. Enfin, monsieur, je ne veux pas être indiscret. Mais un Parisien m'excusera. Je ne vous cacherai pas que si vous me voyez attentif à ma toilette... » Et ce disant, M. Nicolas Tournesol, en rougissant légèrement, versait une eau embaumée sur son mouchoir. « Eh bien, M. Nicolas Tournesol, Madame de Méran est ma pire ennemie. »« Diable ! Ah, voilà qui est tout à fait fâcheux, par exemple. » « Si vous connaissiez mieux cette dame, » continua Rouletabille, « vous vous seriez déjà demandé ce qu'elle peut bien être venue faire à Severton. » « Mon Dieu, monsieur Rouletabille, je ne suis point si curieux, et pourvu qu'une femme soit charmante et veuille bien se le laisser dire. » « je vous comprends, mais comme je sais, moi, qu'elle est venue ici pour ma perte et pour celle de mes amis, vous comprendrez à votre tour que j'envisage l'événement sous un autre aspect. Ne soyez donc point jaloux, monsieur Tournesol, si j'ose vous demander de m'indiquer l'appartement qu'habite cette charmante personne, et si je pénètre chez elle pour une explication que j'espère définitive. » « Monsieur, répliqua le commis-voyageur avec une bonne grâce un peu triste, car enfin Rouletabille venait déranger bien des choses. « Si vous n'avez eu qu'à pousser ma porte pour entrer ici, c'est qu'elle n'était qu'entr'ouverte, et si elle était entr'ouverte, c'est que, tout en me faisant la barbe, je surveillais la porte même de Madame de Méran. C'est la seconde dans le corridor, en face. « Merci, monsieur, » fit Rouletabille. « Quoi que vous entendiez, je vous prie de ne point intervenir. » « Oh, monsieur, je n'entendrai rien du tout. Je vais descendre immédiatement, car je serais au désespoir de vous déranger. Je vous demanderai seulement de ne point dire à cette dame, qui, je vous le répète, a été charmante pour moi, que c'est moi qui vous ai indiqué son appartement. Mais, au fait, monsieur, je ne pense point que c'est uniquement pour avoir un renseignement qu'aurait pu vous donner le premier domestique venu que vous êtes venu me trouver. » « Non, monsieur Tournesol, c'est pour vous livrer ce précieux dépôt. » Et Rouletabille lui remit un paquet assez volumineux et soigneusement scellé, sur lequel on pouvait lire « À remettre, à Paris, directement entre les mains du ministre des Affaires étrangères. » « Sachez, monsieur Tournesol, expliqua de son air le plus calme le reporter, que depuis mon arrivée dans le patriarcat, il m'a été impossible de communiquer avec le dehors, et que, dans le combat décisif que nous allons livrer à la vieille Marmarie, nous avons, mes amis et moi, 99 chances sur 100 de succomber. Grâce à vous, monsieur, mon pays sera instruit du crime qui aura été commis contre 3 des siens, et le monde n'ignorera pas comment ont disparu pour toujours monsieur Jean de Santierne, mademoiselle Odette de Lavardan, et M. Joseph Rouletabille, votre serviteur. » Ému d'une pareille confiance, M. Tournesol allait prononcer quelques phrases mémorables. Mais Rouletabille frappait déjà à la porte de Madame de Méran. Le commis-voyageur le vit entrer. « Ouais, il va se passer là du vilain qui ne me regarde pas. D'esprit, je suis avec ce jeune homme, mais de cœur, je suis avec la dame. « Au fond, il m'arrive ce matin quelque chose de très désagréable. » Et, ne tenant pas à être mêlé davantage à une affaire dans laquelle son bon cœur ne l'avait déjà, pensait-il, que trop entraîné, il descendit au bar, après avoir mis sous clé le précieux dépôt de Rouletabille. Il avait déjà pris quelques cocktails en poursuivant vaguement ses pensées, quand, par la fenêtre ouverte qui donnait directement sur le tohu-bohu du caravansérail, il aperçut sous une voûte et devant un étalage de soieries Madame de Méran qui marchandait une étoffe à un juif syrien. « Tiens, » se dit Tournesol, « l'explication est terminée. » Et il se disposait à aller rejoindre la jeune femme quand il la vit laisser là son juif syrien pour aller toucher à l'épaule un étranger qui avait le plus grand mal à se faire un chemin au milieu de la cohue. Il semblait du reste se diriger vers l'hôtel. L'homme et la femme y pénétrèrent aussitôt. Madame de Mérin avait rabattu son voile et marchait rapidement. Ils passèrent près du commis voyageur, sans même le voir, tant il paraissait préoccupé. Enfin, il n'y eut plus de doute pour M. Tournesol que Madame de Mérin conduisait l'étranger dans son appartement. « Il n'y a que moi qui n'entre pas chez elle !» se disait le malheureux Tournesol. Et tout à coup, il se frappa le front. « Mais je connais cet Olibrius-là, moi. C'est celui qui a ramené la Kéra. Qu'est-ce que Madame de Mérin peut bien avoir à faire avec cet aventurier ?» La première chose que Madame de Mérin dit à Hubert quand elle fut seule avec lui dans son appartement, dont elle ferma soigneusement les portes, ne fut point pour le complimenter. « Je vous ai fait venir, car je sais ce qui se passe au palais, et vous n'y faites que des bêtises. Vous n'aurez jamais Odette de force, mon ami. »« Oh !» fit Hubert avec amertume. « Ni de force, ni autrement, je le crains bien. Mais nous nous vengerons. » « Qu'est-ce qu'une vengeance qui ne vous donne pas la victoire ?» releva la pieuvre. « Je vais vous donner, moi, le moyen d'obtenir Odette. Vous n'avez qu'à lui dire « Jean va mourir de la mort la plus atroce. On ne lui épargnera aucune torture, mais il sera sauvé si tu consens à devenir ma femme. Je le fais remettre immédiatement en liberté. » Hubert avait bondi en entendant ces paroles. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Que voulez-vous dire? Calista doit lui faire passer ce matin un pain empoisonné.